Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 24 mai 2023. Je dois avouer que j'adore ce métier et que j'adore ce milieu, cette capacité que nous avons à être optimistes envers et contre tout le lundi et de tourner la veste pour chercher la petite bête sur n'importe quoi le mardi est toujours absolument fascinante et c'est donne vraiment envie de se lever le matin pour voir ce que le marché a bien pu avoir comme idée pendant la nuit. J'avoue aussi que je suis très mauvais en statistiques et que parfois ma mémoire me fait défaut. Mais il me semble quand même que ça faisait un moment que la baisse n'avait pas été aussi forte et le sentiment tout pourri comme ça. Si j'osais, je dirais que nous sommes passés du verre à moitié plein au verre à moitié vide. Tout d'abord, vous le savez, à l'heure actuelle, il est absolument interdit par les autorités régulant le secteur des chroniques boursières de commencer une chronique journalière sans faire un update sur les discussions menées par les républicains et les démocrates afin de savoir à quelle sauce l'économie et le système américain va se faire déglinguer. La thématique du fameux plafond de la dette passe avant toute chose et il est absolument indispensable que l'on commence par constater et annoncer que la journée d'hier n'aura servi à rien. Les deux camps n'ont pas été foutus de se mettre d'accord sur quoi que ce soit et il semblerait que le mot concession ne fasse pas partie du vocabulaire des républicains ni de celui des démocrates d'ailleurs. Les clowns tristes et les clowns se sont donc séparés après des heures de discussion en constatant qu'ils n'avaient pas avancé d'un pouce, mais que ça n'était pas grave parce qu'il reste encore plein de temps pour trouver une solution. Après tout, le 1er juin, ça n'est que dans 7 jours. Le stress était donc largement contenu et on pourrait presque dire que les marchés n'ont même pas baissé à cause de ça. Non, parce qu'en fait, lorsqu'on prend le temps de lire les commentaires des experts, les interrogations de tout un chacun, le problème n'est plus tellement de savoir si les USA vont trouver un accord pour ne pas faire défaut, mais de savoir quand est-ce qu'ils vont trouver un accord. Mais au-delà de cette relative confiance, les experts commencent surtout à se demander s'il y a quelque chose de positif qui va sortir de cette crise de la dette. Oui, parce que vous en conviendrez, à l'heure actuelle, il y a deux fins alternatives au chaos dans lequel nous sommes. Fin alternative numéro 1, les USA font défaut, c'est la merde, la récession nous frappe, la bourse perd 45% selon la Maison Blanche, l'économie US entre en récession, le reste du monde suit comme un seul homme parce que c'est quand même les USA. Mais justement, comme c'est les USA, ils se retroussent les manches et ils fight back. La Fed baisse les taux pour sauver l'économie et l'inflation s'effondre parce que plus personne ne consomme et à la fin, ça remonte. Fin alternative numéro 2, les idiots de droite se mettent d'accord avec les idiots de gauche. On remonte le plafond de la dette et le pays est sauvé. Sauf que comme le trésor américain est complètement fauché et qu'il faut rapidement remplir les caisses pour faire face au paiement de la fin du mois, il faut rapidement émettre de nouveaux bons du trésor pour remplir les caisses de pognon et verser sa part à Zelensky comme d'habitude. Le problème, c'est que selon les experts en gestion du budget des États-Unis, il va falloir emprunter autour des 700 milliards. Et la question que tout le monde est en train de se poser, c'est de savoir qui va prêter 700 milliards au gouvernement US dans l'urgence. Les Russes? Les Chinois? À moins que ce soit l'Ukraine qui utilisera l'argent donné par Biden pour lui prêter à des taux de carte de crédit. Nous avons donc peur que le marché obligataire s'assèche instantanément et qu'un autre problème surgisse, le manque de prêteurs. Et c'est pas tout. C'est pas tout parce qu'au-delà de l'assèchement quasi instantané du marché, d'autres experts mentionnent le fait que pour que les politiciens se mettent d'accord, il va falloir couper dans les budgets. Ce qui veut dire moins de dépenses et donc moins de croissance et donc crainte de récession exacerbée. Si l'on doit résumer la réflexion du marché hier, on se rend rapidement compte que sur les deux solutions, il n'y en a aucune de vraiment satisfaisante. Il nous reste donc le choix de trouver une troisième porte de sortie, mais le temps risque de manquer, ou de se préparer à une mauvaise nouvelle, ou à une mauvaise nouvelle. Lundi, nous étions donc en train de nous dire que ça allait bien se passer, qu'aux USA, c'est toujours les gentils qui gagnent à la fin, et ce matin, on se demande si l'on doit choisir entre la peste et le choléra. On se croirait presque au second tour des élections françaises, ce jour-là où ils savaient que peu importe pour qui ils allaient voter, ils se feraient niquer quand même à la fin. Cette nouvelle soudaine analyse à deux balles qui a frappé le lobe frontal de nos cerveaux durant la séance d'hier aura donc eu des conséquences immédiates. La première conséquence aurait été cette furieuse envie de tourner la veste et de passer dans le camp des négatifs râleurs et jamais contents. Et l'autre conséquence aura été de se demander quel pourrait être l'impact direct de ce coup de frein violent mis en place aux USA. Un élément de réponse a immédiatement été proposé par l'analyste Lux de chez Deutsche Bank qui est arrivé avec la déclaration suivante. Déclaration qui, je le précise, a été retravaillée par moi-même pour rendre les choses plus claires et plus concises dans le cadre de cette chronique. Le monsieur a donc dit... Déjà que les Chinois sont pas au top de leur forme, et si l'on tient compte du fait que les USA sont le second marché du luxe derrière la Chine, si un fort ralentissement venait à frapper le pays à cause de la crise de la dette, le marché du luxe qui est déjà saturé et qui contient déjà presque trop d'acteurs, sans parler du fait que c'est monté de près de 30% depuis le début de l'année, soit autant que l'intelligence artificielle, ce qui revient à dire que les sacs à main se vendent aussi bien qu'un programme qui va nous piquer nos jobs pendant les années à venir, on peut donc logiquement craindre que les investisseurs pourraient avoir envie de se débarrasser de quelques actions dans le secteur. Fermez les guillemets. Alors, oui, je l'avoue encore une fois, j'ai clairement enjolivé et romancé la déclaration de l'analyste luxe de Deutsche Bank. Mais c'était pour rendre l'histoire plus digeste. Toujours est-il que tout le secteur s'est fait déglinguer hier. Hermès chutait de plus de 5%, suivi de près par LVMH, moins 4%. Kering, propriétaire notamment des marques de Gucci, Saint Laurent et Balenciaga, qui sous-performait largement le secteur depuis un moment, perdait 2%. Richemont reculait de 1,8%. En Suisse, Moncler perdait 2,5% et Burberry chutait de 2%. Autant vous dire que le CAC n'a pas résisté et l'indice de Macronie affichait la pire performance européenne de la journée en abandonnant 1,3%, sans compter que même la volatilité montait. Serait-ce le retour du stress et de l'angoisse ? Aux USA, c'était également prise de profit et compagnie, alors que l'on prenait conscience qu'il n'y aurait peut-être pas de sortie de crise facile sur ce coup-là. Le Nasdaq reculait de près de 1,3%, alors qu'Apple était victime d'un rare downgrade et le S&P 500 ratait encore une occasion de casser les 4200 à la hausse. L'indice de référence américain terminait en baisse de 1,12% à 55 points du Graal. Les doutes sur le plafond de la dette continuent de peser sur l'Asie également. Moins 0,85% à Tokyo, moins 0,95% à Hong Kong et moins 0,5% à Shanghai. L'ambiance est la plus morose que nous ayons vécue depuis que l'on s'est rendu compte que les Américains avaient remis au goût du jour la thématique du bank run. Il faut dire que cette soudaine prise de conscience fait soudainement froid. Cette soudaine prise de conscience qui n'a pas vraiment de sortie de crise idéale semble nous avoir fait soudainement très froid dans le dos. Pour le moment, les futurs tiennent le coup, mais les interrogations sont soudainement un peu plus nombreuses et un peu plus précises. Le pétrole est à 73,77. La remontée continue alors que le ministre de l'énergie saoudien a mis les traders en garde et leur a conseillé de ne pas s'amuser à shorter le pétrole à 2 semaines du prochain meeting de l'OPEP. La menace était à peine voilée et visiblement les shorts n'ont pas perdu de temps vu que personne n'a envie d'être invité au cocktail de l'ambassadeur saoudien à Istanbul. L'or est à 1979 et le bitcoin est à 26 777. Du côté des nouvelles du jour, on notera qu'Apple a signé un méga deal avec Broadcom pour les puces 5G, réduisant encore un peu plus sa dépendance envers l'étranger. Le stratégiste de Goldman Sachs met en garde contre l'intelligence artificielle, expliquant que c'est un investissement sur le long terme et que là, on a peut-être été un peu vite en besogne là tout de suite. Il y a aussi Bernanke, ancien patron de la Fed, qui estime que le combat contre l'inflation n'est pas encore gagné et qu'il y a du travail. Et il y a les menaces de grève chez Samsung, le tout sans oublier que les retraits de fonds dans les banques régionales sont toujours au plus haut de tous les temps. Mais jusque-là, ça va. Pour le reste, on va continuer à observer McCarthy et Biden qui jouent à 1, 2, 3 soleil, attendent des chiffres de Nvidia ce soir et se demander si les minutes du FOMC meeting qui seront publiées ce soir vont nous changer la donne, nous donner une autre perspective que celle déprimante dans laquelle nous sommes depuis hier après-midi, depuis que le doute nous étreint. Il y aura également l'IFO en Allemagne ainsi que les inventaires pétroliers et puis il y aura surtout Madame Yellen qui parlera. Alors perso, je crois que je pourrais presque vous faire son discours en avant-première, mais ça serait un peu présomptueux, même si l'on sait tous qu'elle va nous dire que ça sera la merde totale en cas de défaut et qu'il faut sauver le soldat plafond de la dette. Voilà, je crois que tout est dit. Il ne nous reste plus qu'à patienter pour voir quelle sera la prochaine réflexion du marché et notre prochaine vision de génie. Je dois dire que je suis impatient d'attaquer la nouvelle saison de « Il n'y a rien qui fonctionne », mais on ne sait jamais, sur un malentendu, ça pourrait marcher. Passez une excellente journée et je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit.